J'ai glissé, chef.
Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile.
J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute.
Tu me parles le cœur.
Si je connaissais le con qui a fait ça, j'aime pas.
Ce soir, je vais conclure.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
C'est pas son jour, dites donc.
C'est jamais son jour.
S'il n'y a pas d'hélice, c'est l'as.
C'est là qu'est l'os.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Et on se retrouve sur la radio, Radio Grand Air, votre radio en pays foyen. Et c'est un véritable plaisir de délocaliser nos studios dans l'enceinte du cinéma La Brèche à Sainte-Foy-la-Grande. Et bien sûr, on retrouve Pascal pour ce nouveau rendez-vous d'Entracte. Bonjour Pascal.
Bonjour Christophe.
Comment ça va?
Super bien. C'est le printemps. Il fait beau.
Et on fête le printemps au cinéma.
On fête le printemps, oui, bien sûr. Ouais. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Grand Air. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce numéro 64 d'Entracte.
Ah, c'est l'âge de la retraite, hein, 64.
Ouais, c'est vrai, c'est un chiffre pour le bonheur.
Enfin, on ne sait pas encore, hein, on verra bien.
Non, c'est pas encore, et en plus, oui, ils sont encore en pleine discussion, donc on ne sait pas encore à quelle sauce on sera mangé.
En tout cas, nous, on se passionne pour le cinéma.
Ouais, voilà. On ne sait pas encore quel sera notre degré de précarité. On verra bien.
En tout cas, le cinéma fait avancer les choses, en tout cas on l'espère, avec semaine, très très beau rendez-vous, dans cette semaine, on l'a dit, consacrée au printemps, mais aussi avec l'arrivage de quelques nouveaux films, quelques productions à ne pas rater au cinéma.
Pascal. Alors il y a plein de films, alors déjà je vais quand même faire une petite parenthèse sur le printemps du cinéma, qui était une opération là, sur 3 jours, hein, donc c'était dimanche, lundi, mardi. Il y a eu quand même un gros pic de fréquentation, notamment dimanche. On a quand même reçu 350 personnes dans la journée.
C'est énorme.
C'est un très bon résultat.
Bonne opération.
Oui. Mais oui, parce que moi, je ne m'y attendais pas. Je m'attendais vraiment pas. Je pense qu'il y a un véritable engouement pour le cinéma. Alors, ce n'est pas forcément... je sais pas si c'est une histoire de prix ou pas, mais voilà, il y a plein de gens qui sont venus voir des films qu'ils pouvaient pas voir ailleurs, des gens qui avaient loupé certaines dates, tout ça, mais il y a 350 personnes, on se serait cru aux vacances de Noël.
Ah ouais.
Et encore, même je me demande si on arrivait à faire un score aussi important. Donc merci à tous ceux qui ont participé, qui sont venus au cinéma La Brèche pour en découvrir donc plein de films, hein, parce qu'on avait quand même pas mal de films à l'affiche. Et puis profiter du tarif aussi, hein, parce que franchement, 5 euros.
Ouais, c'est intéressant.
C'est chouette.
Comme tu le disais, j'en discutais avec un monsieur qui sortait des salles tout à l'heure, qui me disait qu'il venait souvent au cinéma et il voyait même dans la journée 2 films, hein, ça arrive.
Même trois. Oui, parce que si tu veux, maintenant à la caisse, je fais un peu la gymnastique, puis je fais un peu d'arithmétique, parce qu'il y a des gens qui me disent, tiens, je veux voir tel film. Est-ce que c'est compatible? Alors, je fais mes calculs. Alors, celui-ci,
et par rapport aux horaires. Hein,
et oui, par rapport aux horaires. Donc. Et donc des gens arrivent à avoir 3 films dans la journée. C'est chouette, c'est bien. Mmh. C'est très très bien.
En tout cas, cette semaine, on se retrouve pour quelques sélections que tu vas nous présenter dans le sommaire, Pascal.
Alors, cette semaine, j'ai sélectionné 6 films. On va parler d'un film d'animation brésilien.
Ah, on change,
bien,
hein.
Oui.
On était,
Un film de Ale Abreu qui s'appelle Le secret des Perlims. On va parler aussi du dernier film de Matt Rank et Benjamin Cabec, Les aventures de Rick. Nous aurons en avant-première. On va parler aussi du dernier film de Denis Imbert, pour ceux qui aiment un peu les road movies à pied, sur les chemins noirs.
Oui, on en parle beaucoup avec le retour de Dujardin.
Oui, exactement, le retour de Jean Dujardin.
Jean Dujardin, oui.
On va replonger, alors c'est marrant parce que toi tu vas me donner ton impression, dans le dernier film de Quentin Reynaud, En plein feu. en plein feu. Et alors, moi, j'ai vu le film annonce, et c'est vrai que tu replonges un petit peu dans cette espèce d'enfer qu'ont été tous les incendies qui se sont déroulés donc, dans la Haute-Gironde, là, et puis se retrouve dans les Landes, là. Donc là, c'est un thriller, hein. C'est pas un documentaire sur l'action, on va dire, des soldats du feu, du tout, hein. Ce sont des gens qui sont pris au piège dans le brasier. On va parler aussi du dernier film de Mariam Touzani, Le Bleu du Caftan. Et pour finir, on va aller découvrir donc, le dernier film de Genki Kawamura, N'oublie pas les fleurs.
Très bien.
Et dans le cadre de la sortie en plein feu, j'ai choisi comme personnage de la semaine un personnage qu'on connaît assez mal, mais pourtant qui œuvre quand même énormément pour le cinéma, parce qu'il est réalisateur, scénariste. Je parlais de Alex Lutz.
On fera connaissance avec l'artiste dans quelques instants.
Voilà, on parlera de sa biographie, de sa filmographie.
Alors on va découvrir un film d'animation. Tu commençais le sommaire il y a quelques instants, Pascal. Le temps de choisir la bonne feuille. Et tu vas nous présenter une production qui nous vient de... Tu nous disais tout à l'heure de quel...
Brésil.
Des Brésil,
tout simplement. Des Brésil, mais c'est chouette ça.
Ouais.
Un peu d'exotisme.
C'est pas courant.
C'est pas courant, les films brésiliens, non, les films brésiliens. Alors déjà, on va dire, les films classiques brésiliens, non, on en reçoit très peu.
Ouais.
Ça arrive, ça peut arriver, hein. Mais c'est vrai que c'est pas très courant. Mm-hmm. Donc voilà, on va parler du Secret des Perlimes, donc un film brésilien d'1h16, un film d'animation aventure, hein, d'Ale Abreu, un film à partir de 6 ans. Donc c'est l'histoire de Chloé et Bruo, qui sont des agents secrets de royaumes rivaux, ceux du soleil et de la lune, et qui se partagent la forêt magique. Lorsque les géants menacent d'engloutir leur monde sous les eaux, les deux ennemis doivent dépasser leurs différences et allier leurs forces. Ils partent alors à la recherche des perlimes, des créatures mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la forêt. Alors oui, on est au Brésil, on parle de forêt.
Ah, c'est un sujet d'actualité.
C'est l'endroit où justement la forêt part
le poumon,
en fumée. Alors, on dit que c'est le poumon de la planète. Bon, il y a quand même bien d'autres forêts aussi. Moi, je pense à l'Afrique, hein,
ouais.
Et ces zones à côté de l'Équateur, là où il y a énormément de forêts aussi. Mais la forêt brésilienne est exploitée, surexploitée et disparaît à une vitesse vertigineuse. Et le souci, on en avait parlé une fois, il me semble.
Oui.
Le souci, c'est le replanter.
Oui.
Personne ne replante. Et pour cause, les productions, on va dire, agricoles. Visiblement, ce sont des bonnes terres, le climat s'y prête. C'est vrai qu'ils ont été les leaders pratiquement mondiaux avec les États-Unis, hein, sur le soja. Et c'est vrai que ça détruit non seulement les petites exploitations, déjà, faut le savoir, hein, au détriment de multinationales qui arrivent et qui achètent des terres, qui souquent tout le monde. Petits paysans, comme habitants, comme aussi des tribus aussi qui, oui, sont là depuis très longtemps.
Voilà, justement, je voulais t'en parler, Pascal. On l'avait évoqué il y a quelques temps de ces tribus qui disparaissaient, mais qui luttaient, hein, encore,
qui se battent au niveau de l'UNESCO, je crois que c'est l'UNESCO, je crois, ils vont porter plainte, tout ça. Et oui, alors bon, là on a, visiblement, le Brésil a changé de gouvernance. On a M. Leblanc qui est revenu au pouvoir. Bon, on va voir un petit peu s'il a... C'était dans son programme, Lula, de stopper un petit peu ce massacre.
En tout cas, il a annoncé.
Voilà. Après, ça reste des politiques, ça reste des paroles.
Mais il faut des actes.
Il va falloir des actes, oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'en détruisant la forêt comme ça, mais on détruit aussi tout le culturel, qui, comme je l'ai dit, est là depuis des millénaires, la forêt du Brésil, on va dire, et habitée par des dizaines, voire peut-être des centaines d'ethnies tribales qui sont là, qui ne demandent rien, qui veulent vivre dans la forêt, et qui veulent surtout qu'on leur foute la paix et qu'on arrête de les exterminer aussi, parce que il y a parfois des assassinats, hein, ils nettoient au fusil, un petit peu comme au siècle dernier, c'est pas très bien. Donc voilà, j'aime bien justement le sujet de ce petit film d'animation, Le Secret des Perlimes, qui sera à découvrir à la Brèche cette semaine. Alors, Le Secret des Perlimes est né de notes, d'esquisses et de dialogues que le réalisateur Ale Abreu a rassemblés au cours de pendant 2 à 3 ans. Et ces idées lui viennent généralement pendant qu'il se consacre à un autre projet. Lorsqu'il a vraiment commencé à travailler sur ce film, il a étalé ses notes sur le sol et les a regardées pendant des heures. Et comme il nous dit, c'est en agençant et organisant ces divers éléments que me sont venus la trame et l'identité graphique du Secret des Perlimes. Alors, à l'origine, le film devait s'appeler Les Voyageurs de la Forêt Enchantée, mais l'équipe a décidé de changer de nom pour Perlimes, sur la suggestion du producteur Luis Bolognesi. Cela renvoie à pirilampos, qui sont des lucioles en portugais, afin de désigner les créatures qui recherchent les héros du film. Voilà un petit peu pour vous éclairer sur l'histoire et la genèse du titre.
Eh bien, ça donne envie d'aller jeter un petit coup d'œil sur cette production brésilienne. En tout cas,
prenez vos enfants.
N'hésitez pas.
À partir de 6 ans, allez découvrir donc, Le Secret des Perlims, donc de Ale Abreu, que nous aurons à la brèche cette semaine.
Merci pour cette présentation, Pascal. Alors, on va enchaîner avec un autre rendez-vous cette semaine, dans la deuxième sélection de cette semaine. Pascal, que as-tu choisi ?
Alors, j'ai choisi Les Aventures de Ricky, que nous aurons déjà en avant-première. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, à la brèche, on a de plus en plus d'avant-première. Alors,
oui, c'est vrai, à chaque fois, c'est souvent.
Et je rajouterai aussi, on a de plus en plus de sorties nationales.
Et vous avez aussi pas mal de rencontres.
Et des rencontres, oui. Des rencontres et débats, là aussi, il y en a quand même pas mal. Donc, Les Aventures du Ricky, donc, l'avant-première sera samedi 25 mars à 16h15. Alors, de quoi parle le film, évidemment ? Les Aventures du Ricky, donc, c'est un film d'animation, almano-belgo-norvégien. Animation aventure donc de Mette Ranktange et Benjamin Kabeck. Donc lui aussi, il a à partir de 6 ans. Alors c'est l'histoire de Ricky qui est un jeune moineau intrépide adopté par une famille de cigognes. Il est embarqué dans une aventure épique au cœur de l'Afrique. Accompagné de ses fidèles amis, Olga la chouette, Pygmée et Kiki la perruche disco, il se lance à la poursuite d'un joyau légendaire. Je te vois rire. Oui, c'est fait pour rire et sourire. Ouais. Bien sûr. Donc, Les Aventures de Ricky, donc en avant-première, donc, que nous aurons le samedi 25, donc à la brèche, à 16h15.
Voilà, eh bien, ça sera l'occasion aussi de se détendre en famille, tout simplement. On va poursuivre avec un troisième rendez-vous cette semaine sur les chemins noirs. Grosse production, on en parle beaucoup à la télévision et en ce moment il fait les plateaux de télé comme beaucoup d'artistes et comédiens qui tournent beaucoup en ce moment, hein. On le voit dans pas mal de productions, de films. En tout cas il est de retour avec un très très beau film, une très belle comédie en tout cas, sur une histoire vraie. Ça s'appelle Sur les chemins noirs.
Oui, c'est tiré d'une histoire vraie, mais alors... Je n'ai pas réussi à trouver d'informations sur les chemins noirs. J'ai pas de documentation parce que moi j'aurais aimé un petit peu savoir un petit peu quelles sont les régions traversées. Le temps que ça a pris, tout ça. Enfin, avoir tout un tas de petites infos sur le tournage. Je suis vraiment désolé, là, je suis assez pauvre là-dessus, donc je vais vous brosser rapidement. On va lire le synopsis. Alors, Sur les chemins noirs, c'est le dernier film de Denis Imbert, un film français d'1h35. C'est un drame, hein, où au niveau des acteurs, nous retrouverons Jean Dujardin, Isia Higelin, Annie Dupéré, Jonathan Zakaï, Joséphine Japy et Dylan Robert. Alors un soir d'ivresse, Pierre, écrivain, explorateur, fait une chute de plusieurs étages. Cet accident le plonge dans un coma profond. Sur son lit d'hôpital, revenu à la vie, il se fait la promesse de traverser la France à pied du Mercantour au Cotentin. Un voyage unique et hors du temps à la rencontre de l'hyper-ruralité, de la beauté de la France et de la renaissance de soi. Alors, il y a quand même un terme qui me plaît, que je trouve un petit peu qui pose des questions, c'est hyper-ruralité. Alors, il faut me faire un petit schéma parce que je comprends pas trop, parce qu'il y a la ruralité.
Oui, c'est
tout le monde à côté. Ouais. Mais l'hyper-ruralité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire habiter dans une cabane en bois, tu vois, dans le au fond de la campagne, avec zéro village, zéro chemin, c'est ça. Enfin, j'ai pas saisi l'hyper-ruralité. Mais voilà un film intéressant, c'est un road movie, et je pense que ce film-là aura du succès parce que bon, déjà le sujet il est quand même assez intéressant. Hein, c'est une promesse qui part en croisade contre lui-même aussi. Hein. Mm-hmm. Et qui va aller rencontrer des gens. Et c'est ça qui est intéressant. Le film, Les Choses Simples, a marché. Pourquoi ? Parce que justement, ce sont deux univers qui s'entrechoquent. C'est un personnage par accident qui va retrouver un autre qui vit peut-être dans l'hyper-ruralité. Tu vois, alors, je pense à l'acteur du film, là, le montagnard, qui était joué par Grégory Gadebois.
Exactement, oui.
Donc voilà, donc ça sera à découvrir à la Brèche, donc sur les chemins noirs, le dernier film de Denis Imbert.
Hein. C'est inspiré du récit de Sylvain Tesson, qu'on a pu voir il y a quelques temps à la télévision, lors d'une invitation sur France 2. Mm-hmm. Cet aventurier qui lui-même a eu un accident très grave il y a de nombreuses années.
D'accord.
Et je pense que c'est lié un petit peu aussi à son récit d'aventurier, Sylvain Tesson. Voilà, c'était juste pour la petite parenthèse, Pascal. Le temps que je cherche la bande-annonce, eh bien oui, il y a. Alors tu le disais, il y a pas mal d'artistes.
Tu te parles du Mercantour.
Ah ouais, vas-y.
Le Mercantour. Non, mais déjà, je n'ai jamais mis les pieds. Mais j'imagine que ça doit être une très belle région, oui, effectivement.
Oui, puis on doit avoir de très très beaux paysages en tout cas.
Oui, moi, je pense qu'au niveau de la photo, oui, bien sûr, pour tout ce qui aime les voyages, pour tout ce qui aime, on va dire la ruralité, la France profonde. Je pense que la photo va être vraiment très 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 très, très belle. Hein. C'est quand c'est bien tourné, quand c'est bien agencé. Voilà, je pense qu'il y aura de belles images à découvrir.
Eh bien, on va écouter le son et allons-y. On se retrouve juste après, Pascal.
Je peux vous poser une question?
Bien sûr.
Qu'est-ce qui vous a le plus manqué dans ce refuge?
Je pense que c'est vous, mademoiselle. Pardon.
Allez, Jacques, un dernier verre!
Oh, c'est malin.
Pierre! Non, non! Pierre! Pierre!
J'étais tombé du rebord de la nuit, m'étais écrasé sur la terre. Il avait suffi de 8 mètres pour me briser les côtes, les vertèbres, le crâne. Quand c'était dans un lit, je m'étais dit à voix presque haute. Si je m'en sors, je traverse la France à pied. Si je réussissais ma traversée, j'obtiendrais réparation.
Je vais partir du sud-est, en direction de la Manche, jusqu'à la mer.
Pierre, c'est de la folie, t'en as conscience.
Oui, mais si je pars pas, je pète les plombs.
Hey,
t'as plus de 1000 bornes, là.
1003.
Les gens qui s'installent ici, ils veulent du haut débit, avant même de savoir s'il y a une école ou une crèche.
Les néo-ruraux, c'est ça.
Voilà, c'est ça.
C'est ça. Pour battre la campagne, j'aurais pu en aligner des dizaines. Mais la vraie raison de cette fuite à travers champs, je la tenais serrée sous la forme d'un papier froissé, au fond de mon sac.
Voilà, à l'instant, un périple avec Jean Dujardin. On va parcourir le monde.
1300
km. 1300 km, ça ouais, fait mal aux jambes.
Je ne sais pas que c'était aussi long.
Ah ouais.
Du Mercantour jusqu'au Cotentin, franchement, pour moi, je ne voyais pas 1300 bornes.
Bah écoute, on va le faire et puis on verra.
Non, ça va. J'ai passé là. Tu sais, moi, j'ai fait les colonies. Les sacs à dos, tout ça.
Ouais.
Ah oui, dans les Pyrénées, oui.
Ouais. Il faut lever les jambes pour monter.
Ouais, en plus c'était dur parce que c'était les passages à Gavarnie, il fallait grimper par-delà là-bas.
Et ça crée des nivelés par moment.
Ouais, c'est ça. Et puis en plus c'est quand même un petit peu dangereux aussi. Hein. Ouais. Vraiment, tu te retrouves contre des parois et tout. Puis t'as les gens, à un moment, dans la colonne, il y en avait qui flippaient, qui embrassaient la paroi, ils voulaient plus bouger. C'était un mauvais film, tu sais. Un mauvais road movie. Et non, c'est rude, hein, la marche à pied avec un sac à dos. Ça demande quand même un petit peu d'entraînement, quoi.
Ouais, c'est ça. Voilà. Avec les appuis, il faut vraiment être concentré en permanence.
En plus,
et puis la fatigue aussi.
Surtout que tu souffres et puis tout est dans la tête. Hein. Il y a ça aussi. Hein. Donc, oui. Bon, lui, heureusement, il fait pas que de la montagne. Il va à la rencontre des gens. Nous, on allait se perdre vraiment dans le parc national. Oui, j'en garde quand même des bons souvenirs. Mais de là à le refaire, non, je pense pas.
La Brèche de Roland, c'est bien à faire.
La Brèche de Roland, j'y suis jamais allé.
Alors, moi, je l'ai fait il y a pas longtemps. Je n'ai pas monté tout à fait jusqu'en haut, mais j'étais pas loin. C'était en octobre. Voilà.
D'accord.
Ouais, un petit peu de marche aussi, ça fait du bien.
C'est pas mal, oui, bien sûr. Ça fait un bien fou. Moi, j'en fais de la marche, hein, mais autour de chez moi.
Ouais. Par contre, c'est facile de monter, mais c'est plus difficile pour descendre.
Ouais. Moi, j'en fais dans le pays de Montagne et Gurson.
Au moins.
Qui est mon pays.
On domine la vallée. Eh bien, c'est noté, Pascal, pour ce très beau rendez-vous. Jean Dujardin, le retour, Isia, tu le disais aussi, chanteuse et comédienne à la fois, et à retrouver dans ce magnifique film qui sera donc disponible cette semaine à La Brèche, Les Chemins Noirs. Donc, si vous avez envie de faire de la randonnée sans vous déplacer, seulement dans le fauteuil, bien allez-y.
Oui.
On enchaîne avec notre rendez-vous, Pascal.
Alors, et qui sera en sortie nationale aussi.
Ah oui, il faut préciser.
J'oublie de le dire.
C'est important. Oui. Alors, ensuite, on enchaîne avec une autre sélection de la semaine en plein feu. On a vécu l'été dernier un été relativement sec et chaud avec les terribles feux qui se sont générés en Nouvelle-Aquitaine.
Exact.
Et ça a été un moment très, très compliqué.
Oui.
Et ça a duré dans le temps. Donc, et d'ailleurs, les feux fumotent par endroits encore. Hein.
Oui, il paraît que ça fume encore.
Ouais.
En tout cas, il y a un truc. Moi, j'ai encore cette vision apocalyptique. Vu que j'habite pas très loin des Vélines.
Ouais.
C'était un matin, très tôt.
La fumée.
Très tôt, ouais. J'amenais mon épouse à la gare et elle me dit, oh, regarde, il va pleuvoir, regarde les nuages. Je dis, non, ils n'ont pas annoncé de pluie. Et là, je commence à réagir. Et là, je me dis, mon Dieu, ça vient droit vers nous. Et c'était les fumées, en fait.
Ouais.
Les fumées qui remontaient plein nord. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'étendue, du désastre à venir. C'est-à-dire que, vu ce que je voyais, on ne voyait pas les flammes, évidemment, on voyait la fumée, vu la quantité, surtout la grosseur du nuage, je me suis dit, ça va durer des jours.
Ouais.
Et ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé.
T'imagines le nombre d'arbres qui ont brûlé, le nombre de végétation qui sont partis en fumée
et de maison
de retrouver ces nuages qui se déplacent avec le gré des vents en fait
oui.
c'est gigantesque
monté, il s'est monté jusqu'à Paris paraît-il la fumée on va parler d'en plein feu des choses pas très
on y est
pas très rigolotes et c'est vrai que quand je regarde le film annonce c'est marrant parce qu'on se replonge dedans. Et c'est vraiment, on n'est pas à l'aise en fait avec cette image-là. Bon, déjà, c'est vrai que c'est l'horreur, c'est l'apocalypse. Mais voilà, on va parler du dernier thriller de Quentin Reynaud. Un film français d'une heure 25, c'est un drame, donc en plein feu. Donc en 2021, Quentin Reynaud avait déjà réalisé un 5e set avec Alex Lutz et Anna Girardot. J'allais dire Annie. Anna.
Ça aurait pu.
Alors au niveau des acteurs, on va retrouver André Dussolier, Alex Lutz, Sophie Parel, Laura Sepoul, Valier Vaudin, Suzanne Copicard, Jules Marchand et Christophe Sardin. Alors un feu géant donc ravage la forêt des Landes. À la suite d'une alerte évacuation, Simon et son père Joseph quittent leur domicile mais se retrouvent rapidement prisonniers de leur véhicule au milieu de ce cauchemar climatique. Le brasier se rapproche, que faire ? Attendre les secours ? N'est-ce pas en s'enfonçant plus loin encore dans l'immensité terrifiante de la forêt brûlante qu'ils trouveront le moyen de s'en sortir ? C'est le point d'interrogation.
Voilà. Allez voir le film pour savoir comment ça finit.
Un thriller. Oui, c'est un thriller, mais franchement, tu vois des images à un moment.
Alors comment ont-ils fait pour faire... pour retranscrire
les effets d'incendie.
Ouais.
Ah. Donc, la naissance du projet, déjà. Donc, Quentin Reynaud a tourné en plein feu au cœur de l'été 2021.
D'accord.
Tu penses bien, dans les Landes.
Ah oui, donc il y avait
des forêts françaises
d'autres feux avant. Ouais.
Les plus détruites par le feu la nuit suivante. Donc après les incendies qui avaient ravagé la Californie en 2018, puis ceux meurtriers, et très importants aussi, qui s'étaient déclarés la nuit suivante dans la brousse et la forêt australienne, le réalisateur se doutait qu'en raison du réchauffement climatique, ce type de catastrophe allait se généraliser dans le monde. Et il oublie aussi le nord de la Russie. Hein. Faut dire que la Sibérie aussi bien flambé aussi. Hein.
Ouais. Et le Brésil. Hein.
Et le Brésil, évidemment. Donc comme il nous dit, j'ai développé alors une fascination pour les récits de feu. Parce qu'ils m'ont fait réaliser que, quoi qu'on fasse, on reste à la merci des éléments et que, quels que soient les systèmes de protection ou d'évacuation mis en place par l'homme, si on empiète trop sur ces plates-bandes, la nature a les moyens de réagir avec une force phénoménale. Exemple avec Paradise qui avait été construite sur un terrain boisé dont on savait qu'un incendie serait difficilement maîtrisable. Il se trouve que je suis originaire de Bordeaux et que je connais bien les forêts des Landes qui sont, avec celles du Var, les plus souvent touchées par les incendies. Plantées sous Napoléon III sur des marais pour les assécher, ces forêts sont constituées de grands pins maritimes. Quand j'ai commencé à imaginer mon scénario, ces arbres me sont soudain apparus comme étant la métaphore d'une prison. Quand ils sont en feu, ils nous enferment comme des barreaux, on ne peut plus en sortir. Alors depuis Paris Willoughby et surtout 5ème 7, Quentin Reynaud n'avait qu'une envie, retravailler avec Alex Lust. Le cinéaste confie. Nous avons créé des liens assez forts dans tous les deux, on s'épaule l'un l'autre. Un jour, il m'a dit cette phrase qui m'a bouleversé. Si tu as besoin de moi, tu me dis à quelle heure et où, et je viendrai. J'ai donc écrit le personnage de Simon en pensant à lui. Donc l'idée de départ de Quentin Reynaud était de raconter une histoire de deuil à la fois réaliste et psychanalytique, à travers la relation entre un père et son fils. Le metteur en scène confie « J'avais le début. Un quadragénaire, Simon, qui a perdu un de ses deux enfants, n'arrive pas à surmonter ce deuil. » Au fond, mon film raconte le parcours d'un homme endeuillé qui, pour accepter son chagrin et ses souvenirs, doit se délester de ce qui lui pèse sur la conscience, avec en supplément cette question cruciale qui se pose à beaucoup de parents qui perdent un enfant. Est-ce que je décide de continuer à me battre et à vivre pour ceux qui restent? Ou est-ce que je me laisse étouffer par les flammes pour le rejoindre, c'est-à-dire laisser le désespoir l'emporter, comme le font beaucoup d'êtres humains? Donc pendant la phase de recherche, Quentin Reynaud a trouvé une grande quantité de vidéos GoPro tournées par des particuliers depuis leur voiture cernée par les feux de Californie. Ce qui l'avait frappé dans ces images était le calme de ces gens qui filmaient l'incendie sans avoir la moindre certitude d'en sortir, alors que dans d'autres contextes, le feu provoque des comportements plutôt frénétiques. J'ai essayé de reproduire dans mon film cette attitude de calme qui me paraissait assez dingue quand on se trouve dans une telle situation. Cette situation peut donner le sentiment que le film n'est pas réaliste, alors que paradoxalement, la réalité était encore plus difficile à croire, précise le réalisateur. Moi, je repense aussi à... Je crois que c'était un journaliste portugais, pareil. Il est en train de se filmer, il fait son speech avec son téléphone et il dit « Oh là, je peux mourir, je ne sais pas si je pourrais sortir de cet enfer » et il roulait. Il était sur la route et ça flambait de partout. Quel calme.
Ouais.
Quel calme. Mais franchement. Mais après, je vais dire une chose, s'affoler servira à quoi?
Oui, c'est ça. Et puis chaque individu ne réagit pas pareil.
On ne réagit pas tous pareil, ouais. Vraiment face au danger. Quoi.
Ouais.
Et c'est vrai que moi, c'est quand même plus conseillé de garder son calme et essayer de trouver une solution. C'est compliqué. Alors évidemment, toi, tu t'y connais mieux que moi. Tu es soldat du feu. Tu as enduré ce genre de cataclysme. Et oui, ça ne va pas être simple.
Non, c'est pas simple parce qu'on a plusieurs phénomènes, notamment ces forêts qui sont situées près de la côte atlantique. On a le problème des vents. Crée son propre vent.
Ah oui.
Et lorsqu'il y a des changements de marée, on a des vents tournants, tout simplement.
Ah,
donc le feu, on l'attend là en progression, puisqu'on anticipe toujours à une heure, à quel endroit se trouvera le feu, la progression, etc. Et des fois, on a des changements de vent tournant et c'est très, très compliqué. Et lorsqu'on a des vieilles forêts, des vieux pins, ça monte en cime. Et le problème, c'est qu'on a des feux très hauts aussi, qui se déplacent très vite.
Ah ouais. Des flamèches et tout.
Oui, absolument. Ouais. Alors, on a des propagations par la végétation, c'est-à-dire l'épine de pin.
Ouais.
On a aussi la propagation due au gibier affolé qui part mettre le feu ailleurs, tout simplement.
Ah
des,
ouais. Ouais. D'accord. Comment ils font?
En fait, ils sont pris dans le feu et on a des animaux qui s'échappent et en partant mettent le feu plus loin.
Parce
qu'ils ont le feu sur eux.
C'est ça, ils sont le poil en feu.
Ouais, absolument.
Mais d'accord, on a retrouvé
des gibiers, en tout cas brûlés dans ces forêts, beaucoup. D'ailleurs, on n'en a pas trop parlé.
Mais oui, c'est pour ça, l'impact sur la faune.
Il y a eu un petit sujet qui avait été évoqué, mais effectivement, on a ces problèmes-là. Et on a l'autre problème qui est plus latent, mais plus vicieux, ces propagations qui se font sous terre, en fait.
Oui, par les racines. Ça, tout le monde a découvert. La tourbe.
Et ça, c'est. Et d'ailleurs, on a encore quelques secteurs forestiers en Gironde où ça fumote encore.
C'est ce que j'ai entendu.
Ouais.
Alors, c'est sûr que c'est sûr de la tourbe parce que c'était d'anciens marais, donc évidemment, Napoléon III a voulu défricher. Alors, au début, évidemment, on combattait la malaria, tout ce genre de maladies, tout ça, mais.
Mais la difficulté, alors quand on a des feux comme ça très très importants, il faut faire des pare-feux.
Oui.
Alors il y a plusieurs techniques, tout simplement. Créer des grands chemins forestiers avec de bulles pour éviter que le feu traverse d'une parcelle à une autre.
Ouais.
Ou tout simplement faire des contre-feux.
Ouais.
Voilà.
Allumer.
Sachant qu'on a des des problématiques voilà, de phénomènes de marée, encore une fois,
oui, avec le vent qui tourne. Le vent, hein, qui joue des tours. Oui.
Donc voilà, plusieurs actions à mener manuellement, avec des sauts-pompes traités point par point avec la bêche,
oui.
La pelle, et traiter ses racines.
Mais c'est vrai que le fait d'avoir enlevé toutes ces zones humides,
ça aussi.
Ça contribue pas à freiner les feux, parce que les Landes étaient une terre de marée.
Exactement.
Et ce qui reste des marées, on va dire des Landes, il n'y en a pas beaucoup. On voit les marées d'Orx, voilà, qui sont au sortir des Landes et du Pays Basque, et qui ont été à peu près conservées. On en a encore certaines étendues, on va dire, des zones humides, quoi. Mais c'est vrai que dans la Haute Lande et tout, ou le Sud Gironde, tout a été, on va dire, transformé, quoi.
Voilà. On a un petit peu de chance tout de même, même si ça a été très très particulier. On n'a pas le chablis qu'on avait lors des tempêtes de 99.
Ah, ouais. Ah oui.
On ne pouvait pas pénétrer dans les bois.
Oui, exact.
Ah, oui, ça, c'était encore plus compliqué.
Oui.
Surtout dans les Landes. Alors c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion aujourd'hui avec les propriétaires, ouais. les professionnels ouais. Du bois, éviter d'avoir des parcelles du même âge qui se touchent, en fait. Il faudrait avoir des parcelles où on a des bois anciens et puis des jeunes bois à proximité pour casser un petit peu ces...
Ouais. Après, j'avais une question quand même, est-ce qu'il ne serait pas temps déjà de changer d'essence d'arbre? Parce que la monoculture, c'est une catastrophe, parce qu'il y a quand même pas mal de parasites,
hein,
de parasites qui se nichent un petit peu sur les pins.
Ouais.
Et j'avais une seconde réflexion aussi par rapport aux Landes, parce que c'est quand même relativement uniforme sur des centaines de kilomètres, hein, carrés. Et c'était peut-être d'y amener une agriculture, histoire d'aérer un peu la forêt, y amener... Alors maintenant, la nouvelle agriculture, ce n'est pas c'est les fermes photovoltaïques qui commencent à s'installer. Mais je parlais de c'est une terre à asperges, les Landes.
C'est du sable.
Je ne vais pas dire maïs, parce que c'est évidemment, avec la ressource en eau, c'est pas terrible. Mais voilà, oui, il y a peut-être un développement à faire. En tout cas, moi, je reste. J'ai toujours en mémoire, parce que moi, je me suis quand même pas mal intéressé au Moyen-Âge, la guerre de Cent Ans, tout ça qui faisait rage en Aquitaine, évidemment, et les Landes, la forêt des Landes. Qui était, bon, à la base, on va dire, des marées. C'est pour ça d'ailleurs que les bergers sont sur des échasses, c'est entre parenthèses,
ah oui,
les bergers
vrai,
landais.
Exact.
Oui, c'est pour traverser ces zones-là. Au Moyen-Âge, on va dire au XIVe siècle, pour traverser les Landes, c'est-à-dire de passer de Bordeaux, on va dire, à Bayonne, ça durait 7 jours à cheval. Ça durait 7 jours avec un guide, un bon guide. Parce que personne ne pouvait la traverser.
Ouais,
c'était des pistes. Des pistes. Et y avait des relais, des petits relais qui sont dont certains, on va dire, villages sont peut-être les derniers témoins. Non, on sait pas. Mais en tout cas, c'était très compliqué de la traverser. C'était un véritable rempart vert. Et il fallait vraiment un très très bon guide pour prendre les bons chemins, parce qu'il y avait beaucoup de genêts, des choses comme ça qui blessaient les pieds des chevaux. Et voilà, donc il fallait vraiment être bien bien accompagné. 7 jours, hein. 7 jours de voyage.
C'est énorme.
c'est énorme. Ouais. Donc voilà, j'ai ce souvenir, tu vois, de la forêt des Landes qui était sauvage, avec plein de zones humides, et puis on voit un petit peu le résultat qui est là. Alors je juge pas, évidemment, c'est l'histoire qui a fait que c'est comme ça, quoi. Mais voilà, il faut savoir une chose, que ces espaces-là ne sont pas naturels. Les seules choses qui sont naturelles, on va dire, ce sont vraiment les zones côtières avec les dunes, mais à l'intérieur, vraiment, ça ne se ressemblait pas du tout à ça.
Après, on a encore ces paysages de longues routes quand on traverse les Landes, également la Gironde, la côte atlantique, ces grandes routes. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est lors des feux de cet été dernier en tout cas, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien.
Ouais.
Et on est là au milieu de ces bois, sur ces grandes routes, à perte de vue, où on a... une vision totalement différente où il n'y a que du brûlé, quoi, en fait. C'est noir de partout,
c'est un désert.
Ça, avec cette odeur qui est toujours là, quoi.
Ah ouais, ça fait une drôle d'impression. C'est vrai que oui, de vide, en fait. T'as l'impression que toute la vie est partie, quoi.
Ouais, exactement.
La faune, la flore, les insectes, tout.
Il n'y a plus de vie. Donc on va se replonger effectivement dans ce film, je pense.
En plein feu, c'est ça, je pensais à toi, je me dis, putain, les pompiers qui vont aller voir en plein feu et qui ont travaillé, qui ont combattu, on va dire, dans les Landes, ça va faire un drôle d'effet quand même, ça va faire froid dans le dos, non?
Oui, je pense.
Quand j'ai vu 2-3 images, j'ai pensé à tous les pompiers.
Alors après, on va peut-être pas rentrer dans le, on va dire dans le, vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment les pompiers interviennent sur ce film-là. C'est plutôt une histoire au milieu d'une catastrophe, tout simplement. Mais effectivement, ça peut être très intéressant et c'est être sensible et être aussi alarmant de ces feux qui viennent pas tout seuls, quoi, en fait. Ça se déclenche pas tout seul, quoi.
Mais en théorie, non.
Voilà. Donc c'est aussi peut-être alerter sur la prévention, le mégot par la fenêtre.
Oui, il y a ça. Mais il y a aussi là, tu parles feu là, ça fait penser au problème qu'il y a eu du côté de Aigurande, Garde d'œil, tout ça, où ils cherchent encore le pyromane.
Et oui, ça aussi. Aussi des pyromanes.
Oui, ils ont essaimé des gendarmes partout dans la forêt, personne n'a réussi à le prendre. Et à chaque fois, il agissait, les feux partaient. Bon, à chaque fois, ils étaient circoncis quand même, c'était quand même assez rapide.
Oui, ça peut être quelqu'un milieu, enfin, qui connaisse un petit peu les stratégies. Voilà. Ça peut.
Ouais. C'est mais ça fait plus d'une fois qu'ils chopent des pyromanes qui sont pompiers, hélas.
Ouais.
Hélas.
Ouais.
Mais là, du côté de là-bas, ils l'ont pas trouvé. Ils l'ont pas trouvé, et puis la pluie est tombée. Ouais. Et puis l'automne est arrivé. Heureusement. Mais tu sais que depuis chez moi, là, à l'Estringue, moi, on voit super bien les départs de feu. Tout ce qui est secteur Montpont.
Oui, lorsqu'on se retrouve en haut sur la colline, là, on voit bien.
Et chaque année, je vois des colonnes de fumée. C'est, dont certaines qui étaient super sévères. Hein.
En tout cas, en plein feu, retrouver la bande-annonce, Pascal.
Comme vous n'avez pas trop fait déprimer avec nos histoires.
Et on se retrouve juste après.
Bonjour, police municipale à l'appareil. On vérifie que les habitants concernés par l'évacuation ont bien entendu l'alerte.
Oui, on est au courant.
Comment se passe l'évacuation jusque-là?
Pour le moment, tout se passe bien et dans le calme.
Ça n'a pas l'air si terrible. On a presque l'impression de partir en vacances.
Que pouvez-vous nous dire du développement du feu de ces dernières 24 heures?
Ce feu est particulièrement virulent avec une forte propagation.
Merde. Faut pas trop s'en faire. Faut pas laisser des centaines de bagnoles coincées comme ça au milieu de la forêt s'ils pensent qu'il y a un risque.
En tout état de cause, il ne faut jamais quitter son véhicule. C'est extrêmement important, les voitures restent les meilleures de protection.
Il n'y a pas beaucoup de temps, Simon. Tu coupes par la forêt.
Allô? Papa?
Je suis perdu.
Voilà, en plein feu, les images sont impressionnantes,
c'est
horrible. Tout cas. Ouais. Alors, il y a aussi la chaleur. Hein.
Oui.
Le pouvoir calorifique est très, très impressionnant. Oui. Et puis, il y a aussi cette odeur, hein. les fumées qui sont assez toxiques. Hein. Faut pas les négliger.
Les fumées bois, absolument. Oui. Ah oui.
Avec les essences et tout des bois, c'est... Voilà, donc, à découvrir avec un Dussolier et un Lutz... font un bon duo, en tout cas, dans ce film.
Oui, je pense, oui. Je pense que le film sera sympa. Pas sympa, sera intéressant, on va dire.
On enchaîne avec un autre rendez-vous, Pascal, cette semaine, et parmi la sélection de ce mois de... Enfin, de cette semaine, en tout cas, cinéma à la brèche, eh bien, tu vas nous présenter le prochain film que vous allez diffuser.
Voilà, on va parler du dernier film de Mariam Touzani, Le Bleu du Caftan. C'est un film franco-marocco-belgo-danois. De 2 heures, c'est un drame romance. Au niveau des acteurs, on va retrouver Lubna Azabal, Sole Bakri et Ayoub Missioui. Alors, c'est l'histoire d'Alim qui est marié depuis longtemps à Amina, avec qui il tient un magasin traditionnel de caftan dans la médina de Salé, au Maroc. Le couple vit depuis toujours avec Alim. Donc, vit depuis toujours avec Alim, son homosexualité qu'il a appris à terre. La maladie de Mina et l'arrivée d'un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre. Unis dans leur amour, chacun va aider l'autre à affronter ses peurs. Alors comment est né ce projet, la naissance? Donc, du bleu du caftan. Donc pendant les repérages d'Adam, son précédent film, Mariam Touzani a fait une rencontre décisive dans la Médina de Salé avec un homme qui tenait un salon de coiffure pour dames. Il a beaucoup inspiré le personnage d'Alim, donc joué par Saleh Bakri. Hein. La réalisatrice se rappelle, donc j'ai ressenti quelque chose de l'ordre du non-dit dans sa vie, quelque chose d'étouffé par rapport à qui il était dans son fort intérieur et qu'il essayait d'être face au monde dans un milieu très conservateur. Je me suis retrouvé à imaginer sa vie car je n'ai jamais osé lui poser des questions personnelles, cela aurait été trop intime. Mais j'ai passé beaucoup de temps avec lui et il m'a profondément marqué. Un jour, cette histoire a pris forme et est devenue nécessaire à raconter, une histoire qui devait s'écrire sans qu'on y pense de manière rationnelle ou logique. Sur le chemin de cette écriture, j'ai eu la chance d'avoir le regard de Nabil avec qui je partage ma vie, mais aussi une passion. Dans son regard toujours bienveillant, acéré et sensible, j'ai pu être confronté à moi-même, accompagné dans l'évolution de mes personnages et de mon histoire, poussé dans mes retranchements. Alors Mariam Touzani a voulu faire un film sensoriel, donc avec Virginie on a voulu mettre en lumière le travail des Maalem dans la beauté de ses détails. La lumière traverse les différents lieux et nous aide à aller vers la profondeur des émotions des personnages. Virginie est très à l'écoute des personnages, de ce que j'ai envie de raconter. Et l'image est évidemment cruciale dans ce film où tout se passe dans leur intériorité. La lumière nous aide à suivre l'évolution des personnages, de leurs relations. Le film devient de plus en plus lumineux à mesure que les relations se détendent. Voilà un film sur le Maroc, et j'imagine qu'il y aura vraiment de belles images parce que c'est un très beau pays. Donc Mariam Touzani et la costumière Rafika Benaïmoun ont beaucoup travaillé en amont sur le choix des couleurs, celle des caftans comme celle des vêtements, des personnages. Ali arbore une élégance innée que la cinéaste a voulu raconter à travers ses habits, et elle confie. Un peu hors du temps aussi. Pour Mina, tous les costumes ont été fabriqués pour le film. Les décors aussi étaient importants. J'adore peindre et composer une séquence est un peu comme composer un tableau. Il me faut réfléchir à l'équilibre des couleurs et des textures. J'ai passé aussi du temps avec des Maalem. Je les ai observés pour voir comment ils travaillaient le fil. J'ai écouté leur histoire. L'un d'eux m'a dit qu'il était prêt à travailler, même non rémunéré. Il ne pouvait pas vivre sans confectionner les caftans. C'était son oxygène. Il ne trouvait pas d'apprenti depuis 20 ans. Il en avait les larmes aux yeux. Un autre maître artisan me racontait comment un des Maalems avec qui il travaillait avait abandonné le métier pour vendre des œufs au marché. Il en avait le cœur brisé. Tous ces récits m'ont tellement touché que j'ai envie de témoigner de ça, d'inscrire la beauté de ces métiers dans le film et de leur rendre hommage. Alors quand Saleh Bakri a lu le scénario, l'acteur est parvenu à cerner le personnage de Halim, notamment au niveau de ses déchirures. Et la réalisatrice confie. Il a aussi ses zones d'ombre. Tout ce qu'Alim vit en cachette, le fait de devoir vivre avec la culpabilité. Alim vit dans une société qui le honnit, dans une religion qui l'exclut, mais il a une femme qu'il aime et qui l'aime. Et il ressent de la culpabilité vis-à-vis d'elle. Je voulais éviter tout jugement. Il n'y a pas de bon et de méchant dans ce film. Alim a une vie parallèle, clandestine, par nécessité. Mais il s'occupe de sa femme avec amour et dévotion jusqu'à la dernière minute. Il fait tout ce qu'on peut espérer de mieux de la part d'un être qui nous aime. Voilà un petit peu le scénario donc, du dernier film donc, de Mariam Touzani, Le Bleu du Caftan.
Et nous aurons une rencontre aussi cette semaine à La Brèche, ça sera jeudi. Absolument. À 20h15 avec Romain Burel qui est journaliste et qui sera là pour évidemment... À vous écouter, puis présenter un petit peu tout cela.
Voilà, donc il est journaliste et critique pour les Un Rock, pour Numéro Mixte, Rock and Folk, les RTBF, et particulièrement attentif à la représentation des minorités à l'écran.
Ouais.
Voilà, donc, donc il y aura effectivement une soirée rencontre, donc le jeudi 23 mars à 20h15 à La Brèche.
C'est noté, Pascal. Et enfin, la dernière sélection de cette semaine, N'oubliez pas les fleurs. Alors justement, tu vas nous faire une petite présentation de ce rendez-vous.
Et oui, c'est un film japonais. On va partir en japonais, c'est vrai, on voyage, hein, tu vois, on va au Maroc, on va au Brésil, au Japon, mais ça sert à ça le ciné, ça sert aussi à voyager.
Exactement, et de voir un petit peu les différentes productions, chaque nationalité a forcément une touche perso.
Toujours, bien sûr, ce sont des univers différents, des manières, des cultures différentes.
En Iran, on a fait...
On a fait pas mal de pays.
La Corée, fait...
Du Sud.
Du Sud, il faut préciser.
J'attends avec impatience la Corée du Nord.
Bon. La champion, là je dis champion.
Ah ouais, j'aimerais bien.
Ouais.
N'oublie pas les fleurs. Film japonais d'1h44. Non, alors on va parler de la maladie d'Alzheimer. C'est un drame. De Genki Kawamura. Au niveau des acteurs, bon, je me suis concentré. J'ai répété un petit peu avant. Masaki Isuda. Michiko Arada. Masami Nagasawa. Masatoshi Nagase.
Très bien.
Lors du réveillon du nouvel an, Isumi retrouve sa mère Yuriko et rentre dans un parc par un froid glacial. Quelques mois plus tard, elle est diagnostiquée comme souffrant d'Alzheimer et sa mémoire décline rapidement. Pour son fils, les souvenirs de sa mère qu'il a élevée seule sont toujours aussi vivaces. L'un d'eux en particulier, lorsqu'il croyait qu'elle avait disparu, le hante terriblement. Alors que Yuriko sombre lentement dans l'oubli, Isumi doit accepter de perdre à nouveau sa mère. Cette fois, pour toujours. En prenant soin de sa mère au moment où lui-même s'apprête à devenir père, Izumi tente de comprendre ce qui l'a éloigné d'elle et s'interroge sur le sens donc de leur relation pour retrouver l'essentiel de ce qu'il leur reste. Voilà, un film qui parle de la maladie d'Alzheimer.
Touchant.
Touchant, oui. Et qui sera à découvrir donc, à la brèche cette semaine. Donc n'oublie pas les fleurs. Un film japonais de Genki Kawamura. Et je peux vous assurer qu'il sera en version originale sous-titrée.
Alors là, ça va faire du bien.
Mais oui, tu penses bien.
Ça va faire du bien. On va revenir à un acteur que tu as choisi cette semaine. C'est le portrait hein, avec un artiste qui, voilà, qu'on retrouve régulièrement dans des films et qui est assez, là aussi, discret et qui a eu quelques récompenses. Alex exact. Lutz.
On va parler d'Alex Lutz. Oui, c'est effectivement. Alors, oui, il se faisait discret au début parce qu'il était plus figurant qu'acteur, on va dire. Il faisait des apparitions dans des films. Et puis, mais il faut bien vous dire une chose, c'est qu'Alex Lutz, il est acteur, scénariste, réalisateur. Ah oui. Donc, il est né le 24 août 1978 à Strasbourg. Quel département ? Oh, j'adore la géographie. Moi, c'est Fastoche, je l'ai en face de moi.
Ouais, c'est le Barin, non ?
Exactement.
Mais c'est quel numéro ?
Ah, je sais pas.
Ah, mais voilà. Je crois que vous me demandez ça, moi.
J'ai pas fait le concours des postes.
Ah, ouais, d'accord.
Ce qui est un jeune homme de 44 ans. Alex Lutz, c'est 13 années de carrière, 42 films et séries tournées. C'est pas beaucoup, 13 années de carrière. Hein.
Ah oui. Ouais, c'est...
Mais, deux prix. 5 nominations.
Ah, ça, c'est important.
En 2019, il a reçu le César du meilleur acteur. Pour le film Guy, qu'il a lui-même réalisé. C'est fort quand même. Il a été sacré aussi meilleur acteur, toujours en 2019, aux Lumières de la presse étrangère, pour le film Guy, toujours le même film. Donc Alex Lutz, il a réalisé 6 films, hein, dont le film dont je viens de vous parler. Alors on le voit apparaître pour la première fois, mais assez tardivement, mine de rien, parce qu'en 2008, dans OSS 117, Rio ne répond plus, de Michel Hazanavicius, avec Jean Dujardin et Louise Monod. En 2011, on le verra dans le film de Cédric Clapiche, avec Karine Viard et Gilles Lelouch, Ma part du gâteau.
Ouais.
En 2012, on le verra dans le film de Franck Gastambide, avec Mehdi Sadoun et Franck Gastambide, Les Caïra. En 2015, grand film de Pascal Chaumeil, que j'ai revu il n'y a pas très longtemps. Avec Romain Duris et Michel Blanc. Je t'en avais parlé lors d'une certaine émission. Un petit boulot.
Ah d'accord.
De Pascal Chaumeil.
Ouais.
Vraiment très très bon film. En 2016, on le verra dans un film qui n'a pas du tout marché. De Jean-Marie Poiré avec Jean Reno et Christian Clavier. Les Visiteurs, la Révolution.
Ah oui, le film de trop.
Voilà, ça n'a pas été une révolution.
Ouais.
Oui, effectivement, c'était Les Visiteurs de trop. Ou alors mal tourné, ou alors il est revenu avec des clichés d'avant, il n'a pas su peut-être faire évoluer ses personnages. En 2017, on le verra dans Knock, de Lorraine Lévy, avec Omar Sy et Anna Girardot. Tu vois le Docteur Knock, ça te dit rien ?
Non.
Bon, si je te dis bizarre, comme c'est bizarre, avez dit bizarre ?
Ah oui, d'accord. Ouais.
C'est ça, Docteur Knock. C'est un film de, à la base, c'est un film de Guy Lefranc, qui était réalisé, je crois, dans les années 30. Moi, je vous recommande la version noir et blanc, qui est très, très bon. Très, très bon film. En 2018, on le verra dans Les Aventures de Spirou et Fantasio, d'Alexandre Coffre, avec Ramzi Bedia et Thomas Soliveres. En 2018, évidemment, il va jouer dans Guy, d'Alex, de lui-même, d'ailleurs. C'est marrant, mais c'est intéressant, quand même. il a réalisé Guy, donc, et il a été sacré meilleur acteur pour ce film-là.
Ah, d'accord. Ouais.
C'est, ça n'arrive pas souvent.
Ouais, c'est étonnant. Vous le dire, c'est étonnant.
Ouais, oui. Donc, avec Tom Dingler et Pascal Arbillot. En 2020, on le verra jouer dans un film d'Étienne Comard, À l'ombre des filles, avec Agnès Jaoui et Afsia Erdi. Et en 2021, on le verra jouer dans le cinquième set de Quentin Reno, avec Anna Girardot et Christine Scott Thomas. Voilà un petit peu quelques films de sa biographie, de sa filmographie de 42 films et séries tournées. Il a fait beaucoup de séries, Alex Lutz. Hein. Je ne vous les ai pas notées parce que moi, pour la télé, c'est pas trop.
Ouais, il a tourné aussi dans un film que tu as beaucoup aimé,
ouais.
Tu n'as pas cité.
Ah.
Les Femmes de l'ombre en 2008, hein. Le film de Jean-Paul Salomé.
J'ai pas eu passé.
Ah ben, oui.
J'ai pas eu passé dans le film. Tu l'as vu où ?
Alors moi, en tout cas, il était dans le film.
Oh. Il n'était pas dans mes radars. C'est marrant. Hein.
Alors, je vais appeler Sophie Marceau, je vais lui dire.
Eh oui, je vais lui dire. Un petit peu cafeté.
En 2008, ouais, effectivement. Alors, il devait avoir un petit rôle. Hein,
Alex Lutz. Mais il a fait quand même des petites apparitions. Vraiment à ses débuts. Donc, c'est vrai que. Tu vois, il a 44 ans et c'est 13 années de carrière. Il a commencé. Alors, je ne sais pas si on peut dire s'il a commencé sur le tard ou pas, mais enfin. Quand on a d'autres ratios sur d'autres acteurs qui ont fait des grandes, grandes carrières. On n'est pas dans ces chiffres-là, quoi. Alex Lutz.
Le Barin.
Qui es-tu ?
Strasbourg.
Le Barin, c'est beau. Tu connais ?
Alors, j'ai jamais été.
Moi aussi. J'irai un jour. Parce que c'est le pays du vin, c'est le pays de la gastronomie, c'est le pays de l'histoire.
Non, c'est pas. Non.
C'est un pays d'histoire.
Ah ouais ?
Oui. Mais oui, c'est un pays chargé en histoire, hein. Tu penses bien. Il s'en est joué bien des épisodes là-bas, ouais. Aux frontières. Après des débuts initiatiques au théâtre de Strasbourg, sa ville natale, Alex Lutz, alors âgé de 18 ans, crée sa propre compagnie, nommée Le Coup de la Pomme, pour laquelle il écrit et met en scène plusieurs pièces. En parallèle, il collabore avec celle de Pascal Splengler, dans laquelle il joue et participe à la mise en scène sur des pièces de Benoît Brecht, Jean-Luc Lagarce, Aziz Chouaki et Heiner Müller. Par la suite, Alex a l'occasion de travailler en tant que metteur en scène avec de nombreux acteurs et comiques, notamment Pierre Palmade.
Ah oui, on en parle beaucoup en ce moment de Pierre Palmade.
Effectivement, oui. Avec qui il collabore sur 4 spectacles, dont Fan, Je vous aime en 2004, Le Comique en 2008 et Il se re-aime en 2013. À partir de 2004, Alex obtient régulièrement des seconds rôles dans des téléfilms et des séries télévisées. Et c'est vrai qu'il y avait une sacrée liste, hein, de séries. On le retrouve notamment sur M6 dans Déformation professionnelle en 2009 et Scène de ménage en 2009 en tant qu'acteur ou metteur en scène. Le Grand Restaurant en 2010 et sa suite 2011. Soda en 2011 et 2014 où il joue le pion Thierry. Et Le Débarquement en 2013 diffusé sur Canal+, aux côtés de Jean Dujardin, Guillaume Canet, Gilles Lelouch, Laurent Lafitte et Nicolas Bedos. Son talent explose au petit écran avec la série de sketchs Catherine et Liliane. Je ne connais pas du tout. Hein.
Ah oui.
Créé et interprété par lui-même et Bruno Sanche. Et diffusé dans Le Petit Journal de Canal+, depuis 2012. Il a quand même une grosse carrière télé. Ouais,
c'est clair.
Acteur et metteur en scène polyvalent, Alex ne tarde pas à faire ses débuts au cinéma. Son premier personnage marquant est celui de Heinrich von Zimmel dans OSS 117, Rio ne répond plus. Réalisé par Michel Hazanavicius. Bon, je ne l'ai pas loupé, l'Alsacien. Heinrich von Zimmel.
Oui.
Il enchaîne ensuite des petits rôles dans des comédies comme Il reste du jambon en 2010, Hollywood en 2011, Les Caïras en 2012, Turf en 2013 et Sous les jupes des filles en 2014. En 2015, il fait ses premiers pas en tant que réalisateur avec son premier long métrage, Le talent de mes amis, dans lequel il joue aux côtés de Audrey Lamy et Bruno Sanche, son partenaire de Catherine et Liliane. Un an plus tard, on retrouve Alex dans Les Visiteurs, La Révolution. Il y campe Robert de Montmirail, descendant du célèbre Godefroy, interprété par Jean Reno. Il s'illustre ensuite dans La peau du curé, Lupus dans Noc, aux côtés d'Omar Sy, puis se glisse dans le costume de Fantasio, d'adaptation ciné de la BD culte, Les aventures de Spirou et Fantasio. En 2018, Alex Lutz met en scène son second long métrage, Guy. Il y tient également le rôle principal, celui d'un artiste de variété française ayant eu son heure de gloire entre les années 60 et 90. À l'affiche des séries Baron Noir dans la saison 3 et Dérapage où il campe un ignoble PDG. Mes feuilles, Alex Lutz n'en oublie pas pour autant le cinéma. Pour preuve, il se lance un nouveau défi en 2020, incarner un tennisman vieillissant qui se livre à une ultime compétition dans 5e set. Ainsi est la biographie d'Alex Lutz. Il est qu'au début de sa carrière, on lui souhaite plein de succès.
Ouais, je pense qu'il y a du potentiel.
C'est un bon acteur aussi.
Ouais, c'est vrai. Et puis, je pense que voilà, on le trouve pas trop sur les plateaux de télévision. C'est quelqu'un d'assez discret, mais efficace en tout cas. Et il fait de la doublure. On n'a pas parlé. Il a fait quelques petits doublages.
Oui, j'ai vu ça. Alors, j'ai pas noté les films où il a fait la doublure, mais effectivement. Oui, j'ai vu.
Il y a du Astérix, voilà. Enfin, en tout cas,
il est vraiment multicarte. Hein. Ouais. Et c'est quelqu'un qui s'est mis à la réalisation assez tôt, mine de rien. C'est un jeune réalisateur et je crois qu'il a toutes les cartes en main pour continuer à faire ses films, vu qu'il est scénariste, acteur, réalisateur. Il a tout pour lui.
Exactement. Pascal, avant de nous séparer, on rappelle le cinéma La Brèche. On peut désormais réserver son petit ticket à l'avance. Ça, c'est la petite nouveauté de La Brèche. On peut réserver ses tickets en appelant tout simplement. Enfin, on peut en ligne tout simplement.
Tu vas en ligne.
Ouais, c'est ça.
On en a parlé un petit peu. Oui, on fait de la VAD. Alors, je vois des gens qui réservent leur place pour des séances qui ne nécessitent pas forcément une réservation.
Il n'y a pas d'attente.
En fait, le VAD, c'est bien quand il y a du rush sur certaines séances. Mais et voilà. Et je voudrais rappeler aussi une chose. Je vois des gens qui font de la réservation et qui s'engouffrent dans le cinéma, qui disent même pas bonjour et qui vont direct dans la salle.
C'est pas joli.
C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, venez nous voir parce que nous, on a vos confirmations sur notre logiciel et c'est en rentrant votre QR code.
Ah oui.
Tu vois, on a besoin de rentrer votre QR code et de dire voilà, la réservation a été honorée. Voilà, si vous avez l'occasion de faire ça, ça serait gentil, vraiment. Donc oui, effectivement, on a de la vente à distance. Un truc aussi qui est intéressant, ça c'est bien et c'est vachement utile, pour les personnes qui ont des cartes d'abonnement.
Ah oui.
Vous pouvez recharger vos cartes en allant sur la page du VAD.
D'accord.
Voilà. Ça c'est quand même bien pratique parce que ça évite de ça, alors je dis pas que ça prend deux plombs, mais ça prend un petit voilà, ça évite de passer trop de temps à la caisse, quoi, tout simplement, quoi.
Vous avez également le Pass Culture, on le rappelle, et puis aussi des tarifs sympas, par exemple le Happy Hour. Si on a envie de venir un petit peu avant de dîner, tout simplement, on vient voir un petit film à un prix raisonnable vers 18h. Et puis,
voilà. Tous les films à partir entre 18h et 19h, c'est ça la PYWAR, sont à tarif réduit pour tout le monde.
Ouais.
Et ce sont des séances qui marchent très très bien. Comme tu l'as dit, d'autant plus pour des gens aussi qui n'ont pas envie de rentrer tard du cinéma. Ça finit à 20h, 20h30 maximum. Donc c'est vrai qu'ils sont à la maison. Alors il y a beaucoup de personnes âgées qui adorent ces horaires-là parce qu'elles préfèrent rentrer quand il fait jour et c'est quand même bien plus pratique. Donc voilà, donc c'est à tarif réduit. Faut pas hésiter. Hein, vraiment, c'est vraiment pas très cher. C'est 5,80€.
Ouais.
5,80€. Enfin, moi des fois je reçois des gens qui sont là en vacances et qui me parlent de leur cinéma. Moi j'en profite pour poser plein de questions. Les tarifs, les programmations. Et effectivement, on est quand même bien placé chez Artek. Hein. Avec 5,80€, c'est quasiment une somme modique.
Voilà. Donc, on rappelle qu'on peut retrouver la programmation sur le petit fascicule qui est distribué un petit peu partout en Pays Foya.
Voilà.
Et puis également sur le site cinéma de La Brèche hein, tout simplement, le .com. Vous allez pouvoir retrouver toute l'actualité. Il y a une page Instagram aussi.
On
salue Laurie, Laura qui nous écoute, pour lui dire que oui, on a aussi la page Instagram.
Voilà, et il y a aussi le site de La Brèche, et il y a aussi Allociné.
Ah oui.
Faut pas oublier, Allociné, c'est un
bon relais.
C'est le site national.
Ah oui, c'est important.
Qui répertorie toutes les salles, tout ça. Et vous avez les programmations aussi de toutes les salles. Hein. Donc c'est quand même assez pratique. Et vous avez aussi les films annonces. Vous pouvez regarder aussi.
Ça vous donne un petit aperçu.
Les films annonces, ça donne toujours un aperçu. Et je trouve que c'est quand même bien pratique. Parce qu'au cinéma, on n'a pas le temps. On n'a pas les créneaux pour passer tous les films annonces. Hein. Moi, je suis obligé de faire une sélection à chaque fois. Hein. Et c'est pas simple.
Voilà.
C'est pas simple du tout.
Bon, Pascal, le temps passe vite, on va refermer le rideau. On se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Entracte.
Avec plaisir.
Je laisse le mot de la fin, bien sûr.
Eh bien, prenez soin des vôtres. regardez-moi la télé. Écoutez Radio Grand Air et venez profiter de tout ce qu'on a à offrir au cinéma. Il y a plein de choses à découvrir. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine.
Et dites bonjour. À très bientôt. Et quand vous rentrez.
Oui, les Rezas, vous venez me voir. Faites un petit coucou au monsieur derrière le plexiglas. Ça sera sympa.
À très bientôt, Pascal.
À très bientôt, Christophe.